Chers frères et sœurs et chers amis, avant de continuer notre 11e étude concernant la prière, qui va durer encore un long moment, il faut que je fasse une toute petite mise au point, parce qu'il y a des personnes qui trouvent que ces études sont beaucoup trop longues. Mais, par exemple, ceux qui peuvent le faire, veuillez me pardonner l'explication suivante. Il y a une grande différence entre ces études et un culte de 10 minutes, comme cela se fait dans certaines églises. Prenez par exemple le Bible Illustrator ou le Pulpit Commentary ou encore Die Erklärungen der Bibel in 24 Bände. Et là, vous verrez que souvent, même pour une seule paragraphe ou par exemple un seul chapitre, simplement de la Bible, il y a souvent 20 à 30 pages dans ces commentaires. Et, croyez-moi, je n'exagère pas. Aujourd'hui, chers amis, vous pouvez trouver dans des super discounts des portables CD, des CD portables, pour seulement 20 euros et qui vous permettent d'interrompre votre CD à n'importe quel moment et même de reprendre la suite le jour suivant. Ce ne sont pas des blagues, c'est vraiment la vérité. Aujourd'hui, tout cela est possible. Mais s'il vous plaît, permettez-moi de poursuivre notre série concernant la prière. Jésus-Christ nous a aimés le premier. Quel inépuisable sujet de reconnaissance, mes chers amis. Il nous invite et il nous aide à nous associer à sa mort afin de nous faire vivre ensuite de sa vie avec son secours et dans sa victoire. Tout ce qu'il ordonne, il le donne. Il ne demande rien qu'il ne veuille premièrement nous donner ou qu'il n'ait déjà donné. Voyez-vous, pour connaître quelque chose de l'amour de Christ, amour qui surpasse toute connaissance, il faut le contempler. L'action de grâce, c'est l'aimer pour ce qu'il a donné. Oui, le contempler, c'est le découvrir lui-même. Et l'aimer pour ce qu'il est vraiment. Nous avons déjà vu que prier, c'est présenter une requête à Dieu dans le but d'obtenir son intervention. Prier, c'est demander avec insistance. L'objet doit en être précis. Mais quel est-il ? Nous parlerons de la prière dont le bénéficiaire est celui-même qui prie. Tout d'abord, sachez, il n'est pas contraire au plan de Dieu de demander quelque chose pour soi-même. Car en effet, l'apôtre Paul, il insiste sur la nécessité de faire un sujet de prière de chacun de nos besoins, qu'ils soient physiques, matériels ou même spirituels. De Dieu viennent la nourriture et les vêtements, et dans la prière dominicale, le pain est un sujet de requête. Il est juste de le demander à Dieu. Mais il faut noter qu'il s'agit du pain pour aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui pour ce qui est du lendemain. La seule garantie qu'il accorde, c'est celle de sa fidélité. Mais combien il s'est honoré notre foi jusque dans les détails. Oui, Dieu répond à la prière. Il prend soin du corps de ses enfants. Il leur envoie la nourriture et, en temps utile, dispense les forces physiques indispensables à la tâche qu'il leur assigne. Il est vrai qu'il n'a nulle part promis de nous délivrer ici-bas de notre corps mortel. Il est cependant le médecin à qui rien n'est impossible. Il est prêt à guérir ou à soulager, capable d'inspirer les docteurs si, par la guérison, sa gloire peut éclater davantage et si nous le demandons dans une entière soumission à sa pensée et surtout prêt à entendre sa réponse, qu'elle soit, par exemple, « Prends ton lit et marche !» ou encore « Ma grâce te suffit !» comme pour l'apôtre Paul. Cette grâce qui permet de supporter l'épreuve est toujours disponible dans le trésor de Dieu. Oh, quelle richesse ! Oui, les supplications ou les requêtes personnelles ayant en vue nos besoins matériels ou physiques prendront probablement de moins en moins de place dans notre vie de prière dans la mesure où croîtra notre confiance en ce merveilleux Dieu qui sait si bien ce dont nous avons vraiment besoin. Il est pourtant des requêtes personnelles qui auront toujours leur place, celles qui concernent nos besoins spirituels. Heureux ceux qui reconnaissent leur indigence profonde et mendient les biens d'en haut. Ceci pourrait d'ailleurs être le sens de la première béatitude, heureux les mendiants d'esprit. Et une telle demande n'est jamais, absolument jamais, égoïste, car voyez-vous, elle a pour but la gloire de Dieu. Il importe par-dessus tout, pour que son nom, son saint nom, soit sanctifié en nous, que notre vie soit conforme à sa volonté, qu'elle soit remplie de ses vertus. Or, par nature, nous ne pouvons être ni patients, ni sages, ni charitables, ni purs, ni aimables. Il est dit dans Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. » Jacques, chapitre 1, verset 5. Ce que Jacques écrivait à propos de la sagesse est valable pour tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et que Dieu nous invite à manifester en nous-mêmes. Les requêtes adressées à Dieu pour plus d'amour, plus de sagesse, de patience, de persévérance, de foi et d'humilité sont toujours conformes à sa volonté. Donc, Dieu peut les exaucer si toutefois le but poursuivi est réellement, réellement à sa gloire. Demander tout cela à Dieu est une marque d'humilité. À l'opposé du pharisien qui rendait grâce de ne pas être comme le reste des hommes, ou de l'assemblée de Laodicée qui dit « Je n'ai besoin de rien, si nous connaissons notre état réel, nous multiplierons les requêtes et elles deviendront de plus en plus présentes dans nos cœurs, oui, dans nos cœurs et dans nos bouches. Nous dirons « Seigneur, oh, donne-moi s'il te plaît ta patience, ton amour, ta sainteté, ton humilité, tous les fruits de ton Esprit Saint sans oublier, et je me pince le nez moi-même, sans oublier la maîtrise de soi. » Oui, toute prière légitime est digne de lui être présentée, quel qu'en soit l'objet. Précieuses pourtant sont celles qui ne tendent qu'à la gloire de Dieu et au progrès dans la connaissance de son saint nom. Dans cette optique, réclamons son secours, ceci pour être sage dans l'éducation de nos enfants, économe dans l'administration de ses biens, fidèle dans le témoignage, scellé pour le servir, patient dans l'épreuve, persévérant dans la foi et prompt à lui obéir. Lorsque la prière a pour sujet une grâce ou une bénédiction en faveur d'un autre ou d'une autre personne, elle s'appelle intercession. C'est un des ministères les plus fructueux, peut-être aussi l'un des plus difficiles, parce qu'il demande la persévérance et de la compassion. De nombreux textes bibliques affirment que l'intercession est un devoir et un ordre du Seigneur. L'Éternel voit d'un regard indigne dans Ésaïe chapitre 59 qu'il n'y a plus de droiture et il s'étonne même de ce que personne n'intercède. Ésaïe chapitre 59 verset 16. Cette phrase prophétique a dès maintenant un écho tragique de vérité. Car où sont les intercesseurs que Dieu réclame, qui sont capables d'apporter leurs frères et sœurs devant lui avec amour sans cesse? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, et encore en plus avec persévérance, Romains chapitre 12, et je crois, verset 12, mais je dis cela peut-être sans avoir trop vérifié, alors pardonnez-moi. Chers amis, voyez-vous, la Bible nous donne d'admirables exemples. Oui, ce sont les premiers chrétiens dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, où on voit vraiment l'apôtre Paul qui ne cessait de prier, même nuit et jour, et il nous est dit continuellement, selon Colossiens, chapitre 1, verset 3 et le verset 9, ainsi que d'autres versets le confirment, 1 Thessaloniciens 3, verset 10, ainsi que 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. Rappelons aussi l'intercession patiente d'Abraham en faveur de Sodome? Que d'enseignement dans cette démarche du patriarche! Sa requête repose sur Dieu lui-même et sur sa justice. « Ferais-tu vraiment périr le juste ?» dit-il. « Sur ta miséricorde, ô Yahvé l'Éternel, ne pardonneras-tu pas ?» La vraie intercession repose en effet sur Dieu, sur sa fidélité et ses promesses. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Romains chapitre 4, verset 21. « Celui qui intercède se trouve donc sur un terrain solide. Négliger l'intercession, c'est de négliger l'obéissance à un commandement précis. « Loin de moi, disait Samuel, de pécher contre l'Éternel en cessant de prier. » 1 Samuel, chapitre 12, verset 23. On ne peut montrer plus clairement que c'est péché que de négliger l'intercession. C'est de plus un ministère universel. L'apôtre Paul écrivait à Timothée « J'exhorte donc avant toute chose à faire des progrès, des requêtes, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. L'intercession n'a pas de limite quant à son sujet ou à son objet. Elle englobe le frère et la sœur qui commet un péché et les païens à qui la parole doit être portée. Saint Matthieu, chapitre 9, verset 38, nous dit « Ceux que menace la colère divine. » Oui, on peut prier pour les malades, selon Jacques, chapitre 5, verset 14. On peut prier pour les prédicateurs, Éphésiens, chapitre 6, verset 19, et même pour tous les fidèles en Christ. Éphésiens, chapitre 6, verset 18, et Jacques, chapitre 5, verset 16. Christ, le divin modèle, il priait, croyez-moi, aussi, même pour les enfants. Vérifiez dans Saint Matthieu, chapitre 19, verset 13, et même, vous le croyez peut-être presque pas, pour ses bourreaux, pour nos ennemis. Ésaïe, chapitre 53, verset 12, confirmé par Luc, chapitre 23, verset 34, le vrai intercesseur s'identifie à celui pour qui il implore son Dieu. Ainsi a fait Esdras, qui était un homme de Dieu. Apprenant le péché du peuple, il tombe carrément à genoux. Il étend les mains vers l'Éternel et il dit « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai vraiment honte. » Il s'identifie donc au peuple coupable. Nos iniquités se sont multipliées et nous avons été grandement coupables. Nous avons abandonné tes commandements. Ainsi a fait Daniel, le prophète, l'homme juste et intègre. Il ne juge pas les autres, mais il se juge à travers eux. Et de tels exemples nous font honte, croyez-moi. Que d'heures gâchées que nous aurons, par exemple, pu passer à genoux, hein, Nous croyons que ce sont des heures qui sont gâchées, mais pas du tout. Ce sont des heures qui sont importantes, où nous pouvons apporter au Père les besoins de nos frères et sœurs et de tous ceux qui souffrent, oui, de tous ceux qu'aveuglent le monde et le diable, et même de tous ceux qui luttent pour la cause sacrée. Chers amis, la prière doit donc être un dialogue. Voyez-vous, beaucoup de gens croient devoir emprunter pour la prière un ton spécial et un vocabulaire particulier. Et lorsqu'ils prient, il est difficile de reconnaître leur personnalité ou même leur voix. Ces prières-là ne sont trop souvent qu'un mouvement des lèvres, fruit d'une habitude ou assemblage de phrases toutes faites et mille fois entendues ou répétées dans une sorte de patois de Canaan. Elles sont donc stériles. Prier ainsi, c'est s'écouter. Et lorsque nous nous écoutons, eh bien, croyez-moi, Dieu ne nous écoute pas forcément. Par contre, si la prière exprime un besoin pressant de l'être intérieur, le sentiment d'une totale incapacité, la crainte de succomber à une tentation particulièrement violente ou subtile, ou bien encore notre amour pour Dieu, alors le langage et le style n'ont plus aucune importance. Et cela va être avant tout un langage fait de spontanéité et de vérité par lequel s'exprime notre relation spirituelle avec Dieu. Pour que le langage de la prière soit vraiment vrai, il doit donc être spontané. Ça doit être le cri du cœur angoissé ou un élan de reconnaissance, un soupir de compassion pour un frère ou une sœur ou un passant très malheureux. Ce langage ne pourra donc jamais se satisfaire simplement de certaines formules. Ce sont les circonstances qui l'inspirent, de même que la conversation de tous les jours. Un manuel ne pourra jamais, mais absolument jamais, remplacer le langage du cœur. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle erreur de se contenter d'aveux ou de déclarations d'amour qui auraient été appris par cœur et servilement récités par celui, par exemple, par celui qu'elle aime ou qu'il aime. Voyez-vous, un petit rappel intéressant. Je me rappelle, et vous certainement aussi, d'un film qu'ils ont donné il y a un certain temps. On peut dire presque un film de notre jeunesse. C'était Cyrano de Bergerac. Or, un moment donné dans cette histoire, il y avait un jeune homme très très beau physiquement, mais qui était très très loin d'avoir la douceur, d'avoir l'esprit et la délicatesse de Cyrano de Bergerac, qui n'était, comme vous le savez, absolument pas beau. Aussi, ce dernier, il a été d'accord de lui apprendre à ce bel âtre quelques beaux poèmes pour les dire le soir à la nuit tombante sous la fenêtre d'une très adorable et magnifique jeune fille. Mais le jour où elle découvrit où elle découvrit la source de ses magnifiques poèmes et de ses merveilleuses déclarations d'amour. Elle aima, même si vous avez la peine à le croire, elle aima de tout son cœur, non pas le bel âtre, le très beau jeune homme, qui les récitait avec son cerveau seulement, mais elle aima de tout son cœur celui qui disait ses poèmes de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Et c'était Cyrano de Bergerac, qui avait hélas un physique, on peut bien dire, loin de pouvoir vraiment plaire dans le sens charnel, évidemment. Donc, les paroles les plus maladroites auront toujours plus de valeur, pourvu qu'elles viennent de notre cœur. Et croyez-moi, c'est cela, vraiment, la meilleure des choses. Dans la joie, c'est le merci reconnaissant. Dans la peine, c'est le cri de confiance et de la foi. Notre relation d'intimité avec Christ doit être unique. Et à cause de cela, elle s'exprime en un langage qui lui est propre. Il y a autant de langages de prière qu'il y a de chrétiens. Mais voilà, il ne s'agit pas d'un monologue. Toute vraie prière est une recherche de Dieu et de sa pensée. C'est d'offrir sa propre vie pour recevoir la sienne. C'est un échange, donc une conversation et un dialogue. Beaucoup de gens disent « je ne sais pas prier » ou « je ne suis pas dans d'assez bonnes dispositions pour prier ». La prière est le langage du cœur. Elle est libre de toute convention artificielle. On peut donc toujours prier, parler à Dieu. C'est le plus simple des dialogues. En tout cas, ça devrait l'être. Pardonnez-moi. Nous n'avons pas à redouter qu'ils se méprennent sur le sens de nos paroles. Car Dieu comprend toujours, il comprend que nous soyons maladroits, que nous ne trouvions pas nos mots ou que nous les employons à tort. Nos pensées sont toujours traduites en clair devant lui. David disait donc dans le psaume chapitre 139, « Tu pénètres de loin ». Ma pensée, la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais d'avance entièrement. Psaume, chapitre 139, et je crois versets 2 et 4. Que de fois nous avons souffert d'être mal compris, même de nos propres amis, obligés de leur dire « tu me comprends pas » ou « tu me comprends mal », ce n'est pas ce que je voulais dire. Souvent, nous avons pensé qu'il serait précieux de pouvoir se confier à quelqu'un qui écoute toujours, avec qui il ne serait pas nécessaire de peser craintivement chaque mot. Un ami qui comprenne tout parfaitement, et ceci sans équivoque, avant même que nous ayons tout dit. Cet ami existe, ah oui, et bien plus, il nous invite lui-même, il nous invite à lui faire part de tous nos besoins, à lui exprimer tous nos sentiments et toutes nos pensées. C'est l'un des grands privilèges de la prière. elle échappe aux difficultés habituellement de langage, devenant par là le plus sûr des échanges avec un ami et un père qui jamais ne se méprend. Chers amis, l'important n'est donc pas de dire souvent une même prière. Non, 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 non. Ça, c'est pas le plus important. Mais de la laisser prendre en nous, dans notre âme, cœur et esprit, toute la place, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de notre vie et de notre comportement. Le fruit de la prière est une vie de prière. Pour connaître ce fruit, la prière doit devenir une attitude permanente. La repentance et la confession de nos péchés devient l'humilité. L'appel à l'aide devient la foi. Et l'acte de foi sera la confiance, s'il vous plaît. Et l'action de grâce devient la reconnaissance. La louange devient la contemplation. La requête devient la repentance. L'intercession devient la compassion. Et le dialogue devient la communion. Et ce sont bien là, croyez-moi, les traits caractéristiques de l'homme de prière. Oui, là où il n'y a pas de fruit, c'est que la vie de prière n'est encore faite que de démarches accidentelles, superficielles, ou peut-être simplement formalistes. Chers amis, maintenant, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que dans la prière, il faut savoir se soumettre, bien entendu, à la volonté du Père. La soumission doit caractériser toute prière, et à bien plus forte raison, toute vie de prière. Non seulement la prière est soumise, mais elle est soumission à Dieu. Elle n'impose rien, elle attend tout de lui. Si elle mendie la joie d'en haut, c'est pour comprendre son plan. Si elle implore sa force, c'est pour vaincre. Et si elle veut répandre la joie, connaître sa volonté, être victorieux, c'est pour la plus grande gloire de Yahvé l'Éternel. L'homme de prière se soumet à l'avance à la pensée du Seigneur. Il se soumet parce que il a la foi en sa sagesse et en son amour, parce que il a confiance en lui et en son plan. Il se soumet parce que c'est de lui seul qu'il dépend. Il n'attend pas de Dieu la réponse qu'il estime la meilleure, mais celle qui pourra glorifier son saint nom, son Seigneur bien-aimé. Il ne s'agit pas d'une soumission à la force, comme ce serait le cas d'une armée vaincue. Non, c'est une obéissance qui est librement consentie, dictée par l'amour et non par la crainte. Et donc, une telle attitude n'est pas facile, d'accord, mais le parfait modèle nous a précédés, et c'est Jésus-Christ. Voyons-le à Gethsémané. Notez Saint Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 42, ainsi que Saint Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Il n'y a peut-être pas de texte plus poignant que celui-là. Oui, devant lui est l'heure suprême de la croix, celle qu'il a désirée et attendue depuis si longtemps, l'heure pour laquelle il est venu dans ce monde. Rien, absolument rien, dans cette soumission n'est uniquement passif. Et cependant, oui, pourtant, ici, à Gethsémané, le Christ mesure à nouveau l'horreur du péché dont il est venu se charger. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus-Christ, bien qu'ayant vécu dans la soumission la plus complète, a dû apprendre l'obéissance dans ce qu'il a souffert. Et c'est pour cela que sa prière trois fois répétée s'accompagne de ces mots sublimes. Toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Jésus-Christ, l'incarnation de la soumission, a dû faire trois fois cette démarche, car si la prière veut susciter en nous un mode de vie, elle en demeure l'indispensable source. Prière et esprit de prière restent dépendants l'un de l'autre. Non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi, mon Père bien-aimé. Une démarche de soumission. Toutes les prières, elles sont permises, bien entendu, même les plus hardies. Pour autant, si nous savons, comme Jésus-Christ, y ajouter simplement ceci. Non ce que je veux, moi, parfois peut-être même égoïstement, mais ce que tu veux, toi. Et c'est peut-être la plus difficile des leçons, mais c'est sans doute la plus importante. Voyez-vous, chers amis, en m'abandonnant totalement à Dieu dans la prière, je compte sur lui pour toutes choses, pour mes besoins journaliers, pour la force qui me fera triompher du péché, pour la sagesse indispensable à mes travaux, pour l'amour, la patience et la paix et tout ce qui doit enrichir et faire s'épanouir ma vie spirituelle. Et par là, je compte sur lui. Oui, je compte sur lui dans la confiance et dans la foi, sans que rien demeure pour moi, en quelque sorte, un souci. C'est donc un abandon dans le repos. La Bible nous dit, je crois, dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Par le mot « abandon », nous voulons donc exprimer le repos. Souvent, la foi est présentée comme l'expression d'un grand effort. Mais la prière qui est un abandon est au contraire un repos en Dieu. Elle le sait fidèle et elle sait qu'elle peut se fier à sa fidélité totale. Elle attend son secours et son aide dans le calme et la confiance qui sont sa force. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Oui, ce qui est important, c'est de savoir, chers amis, oui, que chaque chose dans notre vie sera l'occasion d'intercéder. Le malheureux croisé dans la rue, la nouvelle d'un deuil ou de l'épreuve d'un frère ou d'une sœur, un regard arrêté sur la foule quand il y a blasphème parfois, c'est l'antidote à l'esprit de jugement et à la médisance. Seigneur, que faire pour ce malheureux qui ne sait rien du tout de toi et qui souffre tellement? Que puis-je pour ce frère ou sœur prêt à succomber? 100 fois en une journée, la compassion et l'amour susciteront en nous de telles requêtes. Ça ne veut pas dire que nous devons aller vers eux et donner le peu qui nous reste pour vivre. Il ne faut pas mal interpréter les choses. On demandera la sagesse et nous découvrirons que la prière avec la parole de Dieu sont des armes redoutables et efficaces, selon Jacques, chapitre 5, versets 15 et 16, contre les persécuteurs, selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 44, et Saint Luc, chapitre 6, verset 28. Même contre la tentation, selon Saint Matthieu, chapitre 26, verset 41, et Saint Marc, chapitre 13, verset 23, je crois. Oui, même contre la méchanceté qui aurait cru cela. Psaume, chapitre 141, verset 5. Ou encore, contre pire que cela, contre les démons. Saint Matthieu, chapitre 17, verset 21. La prière qui jaillit de nos lèvres n'est que l'expression d'ailleurs absolument indispensable d'un sentiment, mieux, d'une attitude intérieure faite de dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est donc la conviction d'avoir tout à attendre de lui seul, de pouvoir en tout temps compter sur sa fidélité. Alléluia! Attitude de reconnaissance, de foi et de confiance, elle pénètre nos fibres et transfigure notre manière d'être. Il n'est alors plus une seule préoccupation ou pensée, plus un seul sentiment ou loisir auquel la prière ne soit intimement liée. Elle est alors, à proprement parler, une façon de vivre, un mode de vie. Et cela consiste à ne rien entreprendre sans l'avis de Dieu ou sans sa puissance, à n'emprunter nul chemin où il ne puisse marcher devant nous, devant moi, devant toi. Nous connaissons l'expression « homme de prière »,« femme de prière ». Et nous avons rencontré sans doute de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui ne font rien sans avoir d'abord obtenu l'assurance de l'approbation de leur Seigneur bien-aimé. Ce sont avant tout des chrétiens qui savent trouver au cours de la journée des moments à passer dans l'intimité de Dieu. Mais ce sont aussi des chrétiens qui, à tout moment, en appellent à lui. Une image nous aidera à comprendre la différence, c'est le téléphone qui peut nous permettre de garder le contact avec quelqu'un et, si nécessaire, demander le conseil désiré. Nous sommes ainsi en relation avec quelqu'un. Mais l'homme de prière est comparable à celui qui pourrait accomplir sa tâche, multiplier les activités avec à l'oreille l'écouteur perpétuellement branché. Il n'a pas à refaire sans cesse le numéro. Il est toujours à l'écoute de Dieu comme le pilote qui écoute avec les écouteurs aux oreilles, sans cesse en liaison avec la tour de contrôle, toujours prêt à recevoir les instructions. C'est cela, la véritable prière. Un des textes les plus souvent cités, je crois, c'est Saint Jean, chapitre 16, verset 24, qui nous dit « Demandez et vous recevrez, excusez-moi, afin que votre joie soit absolument parfaite. » C'est une des perles de l'Évangile. Mais combien de chrétiens, bien que s'appuyant sur une telle déclaration, et prions avec ferveur, n'ont-ils pas eu la déception, malheureusement, de voir leur prière inexaucée? Ça m'arrive aussi. On comprend sans peine leur découragement. Les promesses de Dieu ne sont-elles pas certaines? Il y a des lois à la prière, et on ne peut pas isoler un texte de tous les autres textes qui se rapportent au même sujet. Ainsi, il y a des prières que Dieu n'exauce jamais. Si, par exemple, j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, croyez-moi ou pas, le Seigneur ne m'aurait jamais exaucé. C'est ce qu'a écrit, je crois, quelqu'un, dans le psaume chapitre 66, verset 18. De même, si quelqu'un détourne l'oreille pour, disons, ne pas écouter la loi, eh bien sa prière même sera une abomination. Proverbe chapitre 28, verset 9. Jacques ajoute une nouvelle lumière. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que, pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but, tout simplement, de satisfaire vos propres passions. Jacques, chapitre 4, verset 3. Et lorsque nous demandons à Dieu quelque chose qui ne nous convient pas tellement et qui ne peut servir ni à notre progrès spirituel, et même pas, et peut-être surtout pas, à sa gloire. Il ne peut donc pas répondre, même si nous avons apporté notre requête en toute innocence, avec les intentions ou les sentiments les plus purs, soi-disant. Mais en même temps que Jésus-Christ disait « Demandez et vous recevrez », Saint Jean chapitre 16, verset 24, il soulignait les conditions de l'exaucement. Hein? Il faut pas lire et comprendre seulement un petit bout, mais aussi, par exemple, quand il est dit hein, certaines conditions. La prière doit donc être adressée au Père, et ce que vous demanderez, nous est-il dit, au Père, il vous le donne, Saint Jean chapitre 15, verset 16. Donc, à lui doivent s'adresser aussi nos actions de grâce et nos louanges. Colossiens chapitre 1, verset 12, chapitre 3, verset 17. De ces mêmes texte apparaît quelque chose. Apparaît que c'est par Jésus-Christ, c'est-à-dire en son Saint-Nom. Colossiens 3, verset 17, ainsi que Saint Jean, chapitre 14, versets 13 et 14, qu'il convient quoi ? Qu'il convient de nous approcher de Dieu le Père. Il ne suffit donc certainement pas d'ajouter simplement à nos prières au nom du Seigneur Jésus. Ces mots n'ont aucune valeur magique. Prier au nom du Seigneur, c'est réclamer l'exaucement à cause de ses mérites, sachant que nous lui devons tout. En tout cas, moi j'en suis certain pour ce qui me concerne. Je lui dois tout, je lui dois le salut, le pardon, la grâce, la force, la vie nouvelle, la justification et la rédemption. Prier le Père au nom de Jésus-Christ, c'est le supplier de nous écouter par égard pour son Fils bien-aimé, malgré notre indignité, mon indignité, et ceci à cause de la justice, de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Prier au nom du Christ, c'est intercéder dans l'humilité, dans l'effacement, dans l'oubli de soi, les yeux tournés vers le Seigneur uniquement à lui seul. Nous sommes au trône de sa grâce, semblable au mendiant qui est introduit en présence d'un roi. Si nous osons ouvrir la bouche, malgré nos haillons, les miens, c'est que nous sommes là de la part du prince, envoyé et recommandé par lui, et le prince a au palais tout crédit et absolument tout pouvoir. La foi est bien entendu qu'elle est indispensable à la prière. À quoi bon prier si nous ne croyons pas du tout à l'exaucement ? Pourquoi lui demander de changer notre caractère ou de nous donner la victoire si nous nous croyons définitivement les esclaves du péché et de nous-mêmes ? À quoi bon parler à Dieu si nous le croyons totalement sourd comme un pot ? Mais la foi est un apprentissage difficile, car son objet est précisément l'invisible, l'impossible, l'incroyable. Et voici une nouvelle règle. Nos requêtes doivent s'accompagner d'actions de grâce. Elles doivent être libérées de toute inquiétude. Elles doivent être faites pour connaître en toutes choses les besoins que nous portons à Dieu par des prières et des supplications et en plus avec des actions de grâce. Et ceci selon Philippiens, chapitre 4, verset 6. Oui, et n'oublions pas que Jésus-Christ priait seul et même à l'écart selon Saint Luc, chapitre 5, verset 16. Et le chapitre 9, verset 18, et il priait très tôt le matin, nous est-il dit dans Saint Marc, chapitre 1, verset 35, ou encore dans le calme du soir, selon Saint Matthieu, chapitre 14, verset 23. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ceci nous est bien expliqué dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, verset 6. Donc, comme Jésus-Christ, il nous faut apprendre à nous isoler dans la prière. La prière est destinée à aucune autre oreille que celle de Dieu. et c'est à l'écart dans la solitude, là où personne d'autre nous écoute, que nous apprenons vraiment à prier. Là, totalement dépouillés de tout artifice, notre prière prendra la forme d'un cri spontané, d'un long soupir, d'une attente intérieure. Prier à l'écart, c'est d'oublier tout ce qui n'est pas lui. Ferme les volets, ferme la porte à tout ce qui n'est pas son amour, à tout ce qui n'est pas sans sagesse, donc sa sagesse, à tout ce qui n'est pas sa patience et sa force. Je crois que c'est dans Actes chapitre 12, verset 12, 2 × 12, que les disciples l'avaient compris, eux, qui priaient ensemble. Toutefois, alors même que nous prions en commun, il faut entrer dans sa chambre et s'y enfermer, se soustraire à toute influence extérieure, à l'Internet et tout le Bataclan qui va avec, à toute considération humaine. Même dans la prière en commun, on peut fermer la porte derrière soi pour se trouver seul avec Dieu. On oublie leurs réactions ou leurs opinions possibles de ceux qui nous entourent au loin, de la télévision, de notre portable qui sans arrêt sonne. Voyez-vous, Jésus-Christ priait, et soyez-en certains, avec fidélité. Il priait même, parfois, avec de grands cris et avec larmes, et présentant à son Père Céleste des prières et des supplications. Hébreux, vérifiez dans Hébreux, au chapitre 5, verset 7, et il priait pour les siens, toujours dans Hébreux, au chapitre 7, verset 25. Mais il priait aussi pour les coupables. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est même écrit dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 53, verset 12, et bien entendu, dans Saint Luc chapitre 23, verset 34. Nous aussi, chers amis, prions pour tous les frères et sœurs, et même pour nos ennemis. Et ceci en tout temps et en tout lieu, et peut-être même dans la souffrance, dans la persécution ou dans la joie, selon Daniel chapitre 6, verset 13. Donc, lorsque nous prions, premièrement, demandons-nous si notre souci primordial est bien l'intérêt de Dieu. Deuxièmement, sachons ce que nous voulons dire. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Ne prions pas pour prier sans peser le sens de nos paroles. Troisièmement, lorsque nous savons pourquoi nous nous adressons à Dieu le Père, ne nous préoccupons plus de la manière dont nous nous exprimons. Laissons simplement parler notre cœur. Dieu nous comprendra très bien, même si nos expressions sont mal habiles. Ce qui fait la valeur de notre prière, ce ne sont pas nos phrases merveilleuses, mais ce sont les sentiments exprimés de notre cœur. Avant tout, soyons nous-mêmes, restons naturels, n'essayons pas d'imiter tel chrétien célèbre ou tel serviteur de Dieu brillant, ne faisons rien pour répéter une expérience d'autrui qui nous aurait été racontée. Quatrièmement, ne perdons jamais de vue que si Dieu est notre Père et notre ami, il est aussi le Tout-Puissant, il est le Créateur de l'univers, le Dieu souverain et infiniment saint. Craignons de lui parler à la légère, sans réflexion ou sans respect, mais prions avec des mots tout simples, comme si nous étions un enfant. Et cinquièmement, souvenons-nous aussi que Dieu aime à nous écouter et qu'il désire nous exaucer. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, nous disent les saintes Écritures. Tandis que la piété, elle est utile à tout. C'est ce qu'il nous est dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Et dans cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, eh bien, la prière a certainement une place de choix, car elle aussi, elle exprime la piété. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. De même, c'est en priant qu'on devient un homme et une femme de prière. Il y a beaucoup plus de femmes de prière que d'hommes aujourd'hui. Ça, c'est assez triste. Mais gloire à Dieu, Dieu les aime. Et comment ? Il est possible d'avoir lu, bien des fois, les merveilleuses expériences d'hommes et de femmes de prière sans absolument rien savoir de ce qui faisait leur force. Toute la connaissance des principes et de la théorie de la prière est stérile si elle n'est pas entrée dans notre expérience. La pratique de la prière est indispensable aux chrétiens. Dieu nous a donné l'exemple de son Fils bien-aimé. Prenons toujours le temps, bien qu'en communion permanente avec son Père, de s'arracher même à son ministère pour se retirer à l'écart et pour prier pour nous, pour vous. Dans l'apprentissage, nous découvrons avec toujours plus de clairvoyance l'imperfection de notre langage et de nos louanges. Nous apercevons également la fadeur de notre intercession, le peu de sincérité et de conviction. Nous les voyons égoïstes, maladroites et impatientes. Prions quand même, et prions souvent. À multiplier les entretiens avec Dieu, nous finirons bien, croyez-moi, par nous laisser pénétrer et par nous laisser transfigurer par lui. Aucun exercice n'est facile. Et j'en sais quelque chose. L'athlète doit s'exposer toutes sortes de règles. Il doit s'exposer à toutes sortes de choses. Et le pianiste, croyez-vous, ça va tout seul? Pas du tout. Il doit répéter sans cesse des gammes. Aucun progrès ne s'accomplit en dehors de cette discipline. Elle exige la persévérance. C'est la raison pour laquelle l'exhortation à la prière va de pair avec l'appel à la persévérance. Veillez et priez et persévérez dans la prière. Il y a, bien entendu, des dangers, le danger de s'assoupir, de se bercer de mots ou de laisser le rêve prendre le pas sur la réalité. Oui, bien sûr. C'est littéralement parfois qu'il faut veiller, surtout lorsque notre pensée s'engourdit et se disperse. Combien indispensable aussi est l'exhortation à poursuivre lorsque Dieu semble sourd, que nous avons à prendre une décision et que son conseil semble se faire attendre. À quoi bon supplier encore lorsque, depuis des années, il semble s'obstiner à nous refuser la plus petite indication? Toute chose, parfois, semble, on peut dire, liée pour nous distraire du devoir de la prière. Ce sont les soucis que nous lui apportons et que, en lui présentant comme pour nous décharger, nous ressassons sans cesse jusqu'à l'obsession parfois. Ça, ce sont des tâches qui nous attendent et que nous lui demandons de bénir malgré tout. Oui, et peu à peu, leur urgence s'impose à nous et nous pousse à interrompre l'entretien. Voyez-vous, tant de choses, même légitimes, voudraient nous arracher à la prière. Combien il nous est indispensable de réentendre sans cesse l'impératif biblique qui nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit Saint, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Aussi, nous allons essayer, avec des mots tout simples, comme si nous revenions en enfance avec des mots d'enfant. Maintenant, prier ensemble avec des mots d'enfant qui plairont à notre Seigneur beaucoup plus que des choses apprises par cœur. Prions donc maintenant ensemble. Père céleste, nous sommes et nous nous rendons compte si peu de choses. Tous les jours, nous sommes confrontés à toutes sortes de péchés, de problèmes, surtout dans les temps qui courent aujourd'hui, qui sont pas du tout les mêmes que quand nous étions des petits-enfants il y a fort longtemps, où la vie était beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup moins compliquée. Seigneur Jésus-Christ, nous nous adressons à toi pour que tu nous aides à mieux comprendre ta sainte parole, à la prendre en nous par ton Esprit Saint pour qu'elle puisse devenir une réalité pour notre vie. Nous désirons nous approcher de toi toujours plus et de vivre davantage une vie honnête, une vie correcte, une vie qui puisse te faire plaisir. Et aide-nous à aimer tous ceux qui se trouvent autour de nous, car autour de nous, il n'y a pas que ceux que nous pouvons aimer facilement, mais il y a tous ceux que nous avons de la peine à vraiment aimer. Mais aide-nous à les aimer aussi, à leur parler de toi. Aide-nous à comprendre que être sauvé ne veut pas dire égoïstement « Je suis sauvé, alléluia, tant pis pour ceux qui sont perdus. » Mais de comprendre que nous avons un devoir, c'est d'apporter d'une façon ou d'une autre, que ce soit par une brochure, que ce soit par une partie du Nouveau Testament. Par exemple, simplement, le chapitre de Saint Jean, qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie chrétienne pour très peu d'argent, ou par un CD, pour que d'autres qui ne sont pas ou qui ne vont presque jamais, seulement peut-être, puis encore, à Noël et à Pâques, dans une église, qu'ils puissent aussi recevoir ta sainte parole. Nous te le demandons avec tout notre cœur. Et nous disons maintenant que nous t'aimons. Nous voulons t'aimer davantage et nous voulons t'obéir. Nous voulons te faire plaisir. Nous voulons vraiment te servir. Sois loué, sois béni au Père éternel et toi, le Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix pour offrir la possibilité du salut. Merci pour tout cela. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, vous aurez compris que des mots tout simples, des mots d'enfant, sans être obligés de faire des phrases ronflantes qui ne sont pas défendues. Mais non. Mais au besoin, si nous ne savons pas faire mieux, restons dans la simplicité d'un enfant envers notre Seigneur. Ça vaudra mieux que de nous forcer à quelque chose qui, pour l'instant, est peut-être encore un peu compliqué. Et merci pour votre fidélité, pour l'écoute. Et cette série sur la prière, oh là là! Oui, j'ai bien peur que ça fasse une centaine de CD. Mais, croyez-moi, la prière, c'est la chose la plus importante de tous les sujets qui se trouvent dans toutes les saintes écritures de la Genèse jusqu'à la Revelation, Apocalypse. C'est le plus important. À bientôt à nouveau. Au revoir, très chers amis.